Vous écoutez la voix de la Russie au micro Victor Yeysev. Qu'apportera le sommet du G20? Les préparatifs du sommet du G20 à Saint-Pétersbourg touchent à leur fin. Le sommet sous présidence russe se déroulera les 5-6 septembre dans la banlieue de la deuxième capitale russe, à Strelna. L'ordre du jour de la rencontre de 20 chefs d'État est chargé, mais les axes principaux de la discussion resteraient les mêmes que lors des derniers sommets en Europe et en Asie qui ont mis en exergue un problème économique commun, celui de ralentissement de la croissance économique et des recherches de nouveaux moyens de reprise. Pour faire le point du programme de discussion et des perspectives du sommet à venir, je me suis adressée au responsable du bureau de Bruxelles, Fondation Robert Schuman, Charles de Marcilly. Monsieur de Marcilly, lors du sommet du G20 qui se tiendra cette fois-ci en Russie, on va évoquer les mêmes questions que pendant le sommet au Mexique, celle de la croissance économique, du chômage, de la sécurité des produits de consommation, de la croissance verte. Est-ce que l'ordre du jour et les problèmes principaux sont toujours les mêmes?
Alors tout d'abord, un petit rappel, le G20 a été créé à la fin des années 90 pour faire face à différentes crises financières. Donc si on reprend ce principe, on s'aperçoit que l'actualité n'a pas beaucoup changé. Et la vocation essentielle est de se concentrer sur les questions économiques parmi les grandes puissances. Ça ressemble 19 États membres plus l'Union européenne. Et il y a également le FMI, la Banque mondiale, ainsi que des pays invités assez régulièrement, je pense aux Pays-Bas ou à l'Espagne ou à Singapour par exemple, qui participent aussi. Alors il faut se rappeler que c'est un sommet annuel des chefs d'État et de gouvernement qui tient à l'automne le plus souvent et qui en fait est un forum qui est plutôt informel. Donc ce sont des discussions de coordination et qu'il n'y a pas d'obligation de résultat ni de procédure décisionnelle définie qui soit très précise. Donc si on parle de productivité, de type de sessions ou d'événements, c'est assez difficile à cibler. En effet, les thématiques sont les mêmes, même s'il faut retenir que les priorités affichées par la présidence russe, qui sont l'économie et notamment la croissance, alors vous avez cité les questions de sécurité de croissance et de la croissance verte, même si je pense que sur la croissance verte, ça risque de passer un petit peu en arrière-plan, parce que c'est plus exactement l'enjeu principal, mais que les réunions des Sherpas et la réunion des différentes chefs d'État et de gouvernement vont se concentrer en effet sur comment avoir plus de croissance et essayer d'avoir en tout cas un peu plus d'emplois et donc moins de chômage dans un avenir proche. Le deuxième paramètre, évidemment, c'est les réformes financières et notamment bancaires internationales qui doivent toujours être négociées. Elles avaient été l'objet des dernières grandes réunions. On doit encore mettre en œuvre Bâle III par exemple ou les questions de supervision bancaire. Mais il faut voir que ces réformes entreprises, alors en priorité et en premier lieu par l'Union européenne, mais qui peuvent être rejointes par d'autres grandes puissances, sont encore à être améliorées. On voit pour la zone euro où tout ça est en cours et donc on n'est pas encore un modèle d'exemplarité, mais on peut estimer que dans un futur proche, l'Union européenne pourra servir de fer de lance sur ces questions et que justement ses partenaires du G20 pourront le faire assez rapidement. Et puis un dernier point qui sera, à mon avis, assez important, parce que c'est un dossier récurrent sur les sommets du G20, c'est la question fiscale, évidemment, avec une attention qui avait été portée ces derniers mois sur les pratiques des grandes multinationales, qui, vous le savez, peuvent avoir recours à des montages plus ou moins opaques d'optimisation fiscale, c'est-à-dire que les entreprises, alors évidemment, elles ont une certaine taille, mais peuvent choisir auprès de quel État membre ou pas elles peuvent se domicilier, et donc de bénéficier et de jouer avec les différentes fiscalités. Et là, évidemment, il faut une réforme et une réponse qui soit commune aux différents États. Donc je pense que, voilà, grosso modo, ce seront les paramètres principaux qui seront étudiés en septembre.
Et à l'issue du sommet, pourra-t-on élaborer un plan d'action, alors ?
Alors, c'est un petit peu la difficulté. On peut toujours espérer qu'il y ait un plan d'action, mais il faut retenir que les derniers mois ont été un petit peu tendus. Si on prend les relations entre la Russie et l'Union européenne, par exemple, si on prend les relations entre l'Union européenne et la Chine, notamment sur les questions commerciales, avec des dossiers comme les panneaux solaires ou l'acier, qui montrent qu'il y a quelques relations qui sont un peu froides, un petit peu tendues, et donc il est, à mon avis, très ambitieux d'estimer qu'on pourra avoir un plan d'action. Je pense que ça va déjà être une bonne chose si les différentes personnalités peuvent se rencontrer en multilatéral ou en bilatéral, même si on sait que ce n'est pas encore certain pour certaines relations entre grandes puissances, et de s'attendre justement à avoir un échange qui soit un peu franc et direct si on reprend les derniers dossiers de juin et de juillet, et donc avoir un plan d'action sur ces paramètres fiscaux économique ou de croissance, qu'elle soit verte ou pas, me paraît aujourd'hui un peu ambitieux.
L'Union européenne a déclaré que la récession touche à sa fin et le chômage aux États-Unis a considérablement baissé ces derniers temps. Faut-il s'attendre alors à de nouveaux accords, comme l'accord interdisant les mesures protectionnistes dans le commerce, par exemple, ou bien il est tôt d'en parler ?
Les relations commerciales sont évidemment au cœur des discussions, puisque l'Union européenne et les États-Unis ont ouvert en juillet les discussions pour avoir un accord de libre-échange. Les relations commerciales, notamment Union européenne, Chine, ont aussi posé quelques problématiques et difficultés récemment. Donc il est entendu que ce sera un des thèmes principaux. En revanche, on sait très bien qu'en question multilatérale, maintenant, pour les relations commerciales, ça devient un petit peu compliqué. On se rappelle de l'échec du GATT et de certaines négociations de l'OMC. Et donc essayer de se mettre d'accord à 20 puissances paraît aujourd'hui un petit peu ambitieux là aussi. Donc je pense que ces discussions seront plutôt de l'ordre de bilatéral que du multilatéral. Un point complémentaire, si en effet certains indicateurs peuvent paraître un peu optimistes d'un point de vue économique, c'est surtout qu'ils n'ont pas été aussi mauvais qu'espérés. Mais ce n'est pas pour cela que la croissance remonte de façon structurelle. Et donc on est plus dans une dimension du moins pire que prévu et que les nuages peut-être disparaissent un petit peu, mais il en reste quand même beaucoup. Et donc le ralentissement économique des pays émergents, par exemple, on peut penser à la roupie qui diminue, et donc les difficultés de l'Inde qu'on a observées cette semaine, ou des nouvelles bulles, on peut penser à une bulle immobilière en Chine, par exemple, ou le chômage toujours très élevé en Europe, plus de 10%, donc des situations qui sont encore difficiles. Il est un peu ambitieux de penser que la croissance est revenue et que donc on pourra avoir une situation économique très positive à venir. Je pense que la réponse que le G20 pourra apporter sera plus de l'ordre du bilatéral et du multilatéral, d'essayer d'avoir quelques ambitions communes, mais de là avoir un plan d'action qui soit très pratique et pragmatique pour sortir de la crise paraît encore un petit peu prématuré.
Merci. Je vais poser ma dernière question qui concerne l'initiative de la Russie de l'amélioration de l'alphabétisme financier des citoyens. Ce sujet pourra-t-il intéresser d'autres participants du sommet, à votre avis ?
Alors, il y a quelques études qui étaient menées par la Commission européenne ou par les organismes internationaux qui essaient justement de mesurer quelle est la connaissance des citoyens de différents pays des paramètres économiques, de savoir qu'est-ce que c'est un déficit, un crédit, un débit, comment est-ce que cela fonctionne. Aujourd'hui, il n'y a pas évidemment de réponse et de programme commun pour apprendre aux gens l'économie. C'est une compétence qui est encore très nationale, dans certains pays, qui est même une compétence qui est régionale, locale, et donc avoir une réponse commune à ces paramètres est difficile. En revanche, il peut y avoir des modèles où il peut y avoir des exemples qui peuvent être retirés. Certains États membres, par exemple, en Europe, sont assez avancés pour essayer de pouvoir présenter et promouvoir des explications auprès des citoyens pour lutter contre l'endettement, par exemple. Mmh. Et donc le fait de comprendre à quel moment est-ce qu'on est endetté, surendetté, et de s'assurer que et les banques et les citoyens aient une information qui soit correctement communiquée, peut permettre à court, moyen et long terme, évidemment, de renforcer la sécurité financière des individus et des personnes physiques. Mais de là, avoir un plan commun, je ne crois pas que ce soit réellement d'actualité.
Merci, monsieur de Marcy. Vous avez écouté La Voix de la Russie avec Victor Yissev. Au revoir.